Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Academy a le grand plaisir d'accueillir dans ses studios, à l'occasion de la publication en coédition aux éditions Ducer d'une part et aux éditions Biblio d'autre part de la Société biblique française, d'une nouvelle traduction œcuménique de la Bible, la TOB comme on dit généralement. La TOB nouvelle, la dernière version actuelle, vient donc de sortir. Nous accueillons pour nous réjouir de cet événement et pour comprendre le bien fondé et les nouveautés que renferme cet événement, Sophie Stavrou. Bonjour Sophie Stavrou. Et Bernard Coyot.
Bonjour
à tous les deux, merci d'être venus jusqu'à nous. Avant de vous présenter l'un l'autre, je souhaiterais vous poser la question suivante. Avez-vous mis l'un et l'autre les mains à la pâte de ce bel ouvrage qui est donc signé, qui est donc coédité par les éditions Ducer et Biblio ? Sophie Stavrou.
Eh bien oui, je peux dire que j'ai mis la main à la pâte et même longuement et beaucoup pendant à peu près un an puisque je faisais partie du comité scientifique avec trois autres personnes, donc une protestante, Valérie Poujol-Duval, un catholique, Hugues Cousin et un autre orthodoxe, Stéphane Munteanu, qui est le professeur d'hébreu et bibliste à l'Institut Saint-Serge. Et nous étions chargés de travailler à la publication, la mise en harmonie avec le style de la traduction œcuménique de la Bible des six nouveaux livres qui ont été introduits dans cette édition.
Ça, c'est la grande nouveauté. C'est la révolution. On peut parler de nouveauté-révolution dans la TOB ?
Nouveauté-révolution. Disons que c'est une étape importante. C'est le grand changement de cette édition. Mais en même temps, il faut dire que cela ne concerne quand même qu'un petit nombre de pages sur l'ensemble du Premier et du Nouveau Testament.
Combien de livres ?
Donc 6 livres, ou plus exactement 4 livres et 2 prières, qui se trouvent donc situées à la fin de l'Ancien Testament.
Bernard Coyot, quel a été votre apport à cette nouvelle traduction ?
Alors moi, je suis l'un des deux éditeurs, et donc évidemment, il y a la fierté d'être l'un des éditeurs d'une traduction de la Bible et de participer à une révision, parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle traduction. Il y a eu d'importantes modifications, d'ajouts, mais donc c'est une révision et de piloter, si vous voulez, tout ce travail, assister bien sûr d'autres personnes. C'est évidemment une tâche très importante et prenante, et pas seulement sur les dimensions du contenu, mais aussi et surtout sur tous les aspects pratiques aussi de l'édition, puisque cette nouvelle TOB est présentée aussi dans un nouveau format, c'est tout le travail de l'éditeur.
Alors j'ai la chance de l'avoir en main. Effectivement, c'est un bel ouvrage, vêtu de bleu, avec de très belles lettres discrètes et argentées. La pagination, je dois dire, est magnifique de simplicité. Et en même temps, cette mise en page très claire nous donne le texte. Enfin, moi, c'est ma première impression de lecture, c'est que le texte est là, pour moi. Le texte est devant mes yeux. Alors, je note en bas de page, légèrement ombré, les notes, elles sont là, mais sagement contenues. Elles ne débordent en rien, elles ne gênent pas la lecture. Enfin, vous avez comme ça les réactions à chaud d'une lectrice, et je dois dire que cela m'a enchantée, parce que c'est vrai, dans la tradition protestante, seul le texte compte. Et cette coédition avec les éditions Ducer nous l'apporte, nous offre le texte, nous le donne. Et il n'est abîmé par rien, mais je suis guidée. Si je veux un éclaircissement, les notes sont là, mais sagement canalisées.
Alors vous avez entre les mains en fait l'une des deux éditions, c'est-à-dire cette TOB, traduction œcuménique de la Bible, parce qu'au fond, cet acronyme, tout le monde ne connaît pas forcément hein, cette traduction. Première idée, la première intuition qui a donné naissance à la TOB remonte à 50 ans en arrière, la première édition à 35 ans, et puis il y a eu des révisions, dont celle qui paraît maintenant. Mais traditionnellement, il y a toujours eu deux formats, si vous voulez. Vous avez celle que vous venez joliment de décrire, c'est la TOB à notes essentielles, si vous voulez. C'est un plus petit format. C'est la Bible de lecture, finalement, qui accompagne quelqu'un qui veut, croyant ou non, qui veut se plonger dans le texte et le lire dans toute sa diversité. Et un format, disons, intime presque. Hein. Et puis, vous avez un autre format, la grande TOB, la TOB dite à notes intégrales, qui est une Bible d'études. Vous voyez, donc la Bible d'études, la Bible de lecture, l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais c'est vraiment deux approches. Donc l'une qui privilégie effectivement le texte et qui donne des notes d'éclaircissement, de compréhension, mais de parallèle avec d'autres textes, mais très sobre et très réduite.
Mais qui permet ce tête à tête.
Voilà. Et l'autre, qui est une édition plus ambitieuse et qui est souvent la TOB, est connue pour cette édition d'études, avec des introductions très approfondies sur le contexte historique, le contexte de rédaction, l'auteur, la théologie, les contextes tenu de chacun de ses livres, et puis ensuite au fil du texte des notes importantes présentant aussi des variantes, le contexte de rédaction, etc. Ça c'est la Bible d'études. Et au tout début, la première TOB, si vous voulez, qui est parue en 1975, était d'abord une Bible d'études. Et ceux qui ont présidé à cette traduction, on va en parler tout à l'heure, étaient des érudits, des biblistes, catholiques, protestants, un petit peu orthodoxes, et qui ont produit cette Bible d'études destinée plutôt à des personnes qui fréquentent le texte, qui l'étudient, comme les prêtres, comme les pasteurs, etc. Et très vite est venu l'intérêt, le besoin d'avoir aussi une version plus accessible, plus concrète, plus quotidienne. Et donc vraiment, il y a toujours cette dualité, ces deux éditions. Et on peut dire, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, qu'aujourd'hui, pour 10 TOB, si vous voulez, qui seraient diffusés, il y en a à peu près 8, 9 qui sont la petite TOB, la TOB à format réduit, à notes essentielles. Et puis une, c'est la grande TOB. Voilà, donc c'est à peu près la proportion, 8 pour 2.
Au niveau de l'utilisation.
Voilà, au niveau de l'utilisation.
Hein, et de la demande voilà, hein, sur de le marché. Demande.
Alors évidemment, quand une nouvelle édition paraît, comme celle-là, d'abord, la curiosité, l'intérêt vient des biblistes, des prêtres, des pasteurs, des érudits, si vous voulez, qui ont envie de découvrir. Et donc, c'est plutôt la grande, à notes intégrales, qui est d'abord achetée. Et puis ensuite, eh bien, progressivement, eh bien, l'édition réduite. Alors quand je dis réduit, c'est le même texte, hein, c'est la même valeur de la traduction, c'est simplement les notes.
C'est tout le travail d'accompagnement des notes.
Qui est diffusée plus largement aussi parce qu'elle est plus accessible dans le format et dans le prix.
Tout à fait. Mais alors, la version d'accès privé, en quelque sorte, de la TOB, se trouve aussi en version de poche. Donc, alors là, une autre utilisation, enfin,
oui,
c'est la même
dire,
utilisation, mais avec un...
Une édition brochée.
Une
voilà,
édition brochée,
simple,
beaucoup voilà. Plus souple.
Voilà, qui là encore correspond à un autre public, peut-être des gens qui ne veulent pas mettre des grandes fortunes,
voilà.
Mais qui sont curieux, qui se disent « Ah mais la Bible, c'est quand même important, il faut que je la
oui,
lise. »
Oui, puis qu'on peut un peu traîner partout,
voilà,
qu'on peut mettre
ça,
dans un
fait.
Sac, qu'on peut transporter.
Et au fond, tout ça, ça donne un éventail de lecteurs, parce qu'une traduction biblique a des lecteurs très différents. Il y a des lecteurs nouveaux qui découvrent le texte. Il y a des érudits qui approfondissent, qui étudient, qui creusent le texte. Et puis, il y a aussi une lecture croyante où c'est la Bible qui vous accompagne, à partir de laquelle on médite, on prie. Et vous voyez, chaque lecteur, finalement, trouve à sa disposition des formats et des éditions différentes, mais pour le même texte.
Vous travaillez sur un livre qui est un peu en dehors du commun. La Bible n'est pas un livre
comme les
autres.
D'ailleurs, la Bible, on ne l'édite pas comme les autres, parce qu'on utilise l'expression « le papier Bible », vous savez, parce que c'est un très long texte de milliers de pages, et il faut pouvoir le faire tenir et bien dans un format quand même pas trop gros. Et puis donc, on utilise ce papier très fin, qu'on appelle souvent le papier Bible. Et puis, il faut que ça soit lisible, et puis en même temps, il ne faut pas que ça soit trop gros. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle, hein. Il faut que ça soit lisible, transportable, solide, et voilà, c'est tout l'art de l'édition biblique, et nous nous y prêtons avec bonheur les éditions du CERF, puisque nous sommes en coédition, et nous-mêmes, la Société biblique française, les éditions Biblio.
Et comment le travail se répartit entre les éditions du CERF
alors,
et vous ? Est-ce
les...
que vous avez des domaines très particuliers les uns les autres ?
Alors, si vous voulez, pour les droits sur le texte et sur les notes appartiennent aux deux maisons d'édition, et donc nous prenons les décisions ensemble. Pour ce qui est du format, pour ce qui est des... Voilà, on discute ensemble. Mais traditionnellement, c'est l'habitude entre nous, les deux éditeurs, les éditions du CERF sont en charge de la grande TOB, la TOB à notes intégrales, et nous, Biblio, la Société biblique française, sommes en charge de la petite TOB, la TOB à notes essentielles. Mais là, nous sommes dans le détail de la forme, et au fond, c'est le texte et c'est les contenus qui importent.
Tout à fait. Alors justement, pour le contenu, je précise et je développe la présentation que j'avais entamée tout à l'heure vous concernant l'un et l'autre. Alors Bernard Coyot, justement, vous nous parliez de forme, mais nous allons voir qu'à la lecture de l'intitulé de vos fonctions, vous travaillez aussi beaucoup sur le fond. Alors vous êtes donc secrétaire général de l'Alliance biblique française, vous êtes directeur des éditions Biblio. Alors Biblio, c'est justement tout le travail d'édition de cette Alliance biblique française. Et pas simplement l'édition de la Bible. Il y a aussi beaucoup de parutions.
Oui, des parutions, mais qui sont toujours autour du texte biblique. Alors ça peut être des ouvrages un peu d'érudition. Par exemple, une traduction interlinéaire de la Bible, c'est-à-dire qui donne un accès très proche à l'original hébreu pour l'Ancien Testament ou grec pour le Nouveau Testament. Donc, c'est une traduction mot à mot avec d'autres traductions en parallèle. Si vous voulez. Bon, voilà, c'est un petit peu pointu. Et puis, au contraire, des éditions, par exemple, de la Bible pour enfants. Voilà, tout ce qui permet de déployer le texte biblique et de rejoindre des publics divers. Donc, des ouvrages plutôt de vulgarisation ou des ouvrages d'érudition. Mais avec toujours le même objectif, de donner accès aux gens, et pas seulement aux gens d'église ou aux croyants, donner accès au texte biblique. Parce qu'au fond, la Bible, c'est un patrimoine extraordinaire, un héritage que nous avons reçu et qui n'appartient à personne, ou plutôt qui appartient à tous, et que chacun peut s'approprier à sa manière, dans une approche culturelle ou dans une approche spirituelle ou croyante. Mais voilà, c'est notre travail d'éditeur de la Bible.
À vos côtés, Bernard Coyot, Sophie Stavroux, vous êtes professeur agrégé de lettres classiques. Vous êtes maître de conférences en grec à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Sophie Stavroux, c'est la troisième version œcuménique de la traduction de la Bible. Cette grande nouveauté, l'insertion de ces six nouveaux textes, enfin vous nous avez parlé de quatre textes et de deux prières tout à l'heure, était-ce attendu depuis longtemps, Sophie Stavroux ? En quoi est-ce si important de voir ces textes apparaître dans cette nouvelle version, donc plus complète que celle qui l'a précédée? Et pourquoi ce travail n'avait-il pas été entrepris auparavant?
Donc c'est en effet une étape supplémentaire que cette nouvelle parution, avec l'apport de ces six livres, dans le travail proprement œcuménique, qui est la spécificité de la TOB. La TOB a commencé par un travail qui a surtout réuni des savants protestants et catholiques et qui a vraiment commencé par se centrer sur l'édition du Nouveau Testament et donc de l'Ancien Testament, on pourrait dire des livres communs à tous les chrétiens qui sont dans l'Ancien Testament. Et les orthodoxes, parce qu'ils sont très peu nombreux, étaient surtout présents au niveau des notes, c'est-à-dire relisaient et demandaient d'ajouter telle note, mais ils ont toujours été présents, mais pas directement présents en tant que traducteur. Il y a une deuxième étape, si vous regardez la table des matières de l'Ancien Testament, c'est assez intéressant. Après ces 39 livres qui sont communs à toutes les églises chrétiennes, il y a une deuxième étape, donc une deuxième liste de livres qui existe dans les Bibles catholiques et orthodoxes, qui est donc déjà parue. Et donc, ultime étape et moyen offert aux orthodoxes de pouvoir avoir une collaboration vraiment active et de plein pied dans le travail de la TOB, l'apparition de ces six livres qui existent dans les Bibles orthodoxes. Alors, c'est très étrange de se dire qu'un texte aussi connu, aussi classique, aussi intangible, eh bien, révèle des surprises. Comment est-il possible que les chrétiens n'aient pas la même Bible ? Ça semble tout à fait étonnant. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à nous interroger sur les marges de la Bible, comme sur l'histoire de cette Bible, qui est un organisme vivant.
Oui, parce que là, vous nous indiquez que la Bible hébraïque, la Bible chrétienne, la Bible des orthodoxes, finalement, ce n'est pas la même livre.
Tout à fait la même. Alors, il ne faut pas majorer. Disons que l'essentiel, vraiment, de la Bible, du corpus biblique, c'est la Bible hébraïque, celle qui est commune aux juifs et aux chrétiens et qui donc comprend 39 livres qui sont donc ce qu'on appellera le premier canon, c'est-à-dire la première liste de textes sur laquelle tout le monde est absolument d'accord. Mais alors, pourquoi d'autres livres qui sont sur la marge, qui ont été tantôt acceptés dans les Bibles, tantôt chassés des Bibles, tantôt écrits en tout petit, tantôt mis à la fin ? Donc pour le comprendre, je pense qu'il faut remonter très loin. Il faut remonter au 3e siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie, au moment où se fait la première traduction de la Bible, qui est une entreprise juive, qui naît dans la communauté juive d'Alexandrie, ou pour avoir un accès direct au texte et aussi peut-être à la demande du pouvoir local, on va entreprendre la traduction de la Bible. C'est une traduction qui va prendre plusieurs siècles. De l'hébreu en grec, qui commence au 3e siècle avant Jésus-Christ et va s'achever au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Et ce corpus, on va l'appeler la Septante, parce qu'il y avait, d'après la tradition, 70 savants, 70 sages qui auraient ensemble rédigé, écrit cette traduction. Donc d'après ce que raconte la tradition, en fait on sait que ça s'est étalé sur plusieurs siècles, mais on lui garde toujours ce nom de Septante. Elle représente un texte qui est la tradition biblique de la communauté juive d'Alexandrie, et elle comprend donc des textes que nous connaissons en grec, dont nous avons perdu l'original hébreu. Et elle comprend aussi des livres qui n'existent qu'en grec. Or, petit à petit, la communauté juive va se recentrer sur le texte biblique palestinien, hébreu, laissant de côté les livres qui n'existent qu'en grec. Et au contraire, enfin inversement, les premiers chrétiens vont découvrir et lire l'Ancien Testament dans cette traduction ancienne grecque. Et c'est sur cette traduction que se feront, sur cette Septante, que vont se faire les premières traductions en latin, la Vetus Latina, les traductions dans les premières langues comme l'arménien, le copte, le syriaque. Et c'est à cette version donc grecque ancienne qu'est restée fidèle l'Église orthodoxe. Alors que du côté occidental, à partir de Saint Jérôme au IVe siècle, et puis ensuite à l'époque de l'humanisme, il va y avoir le désir d'un retour à la vérité hébraïque, donc un recentrage sur ces livres essentiels, et du coup, cette tendance à finalement ne plus publier, ne plus prendre en compte ces textes qui n'existent qu'en grec, et qui vont petit à petit disparaître. Mais ils ont quand même beaucoup compté en Occident. Donc au fond, c'est aussi un moyen de redécouvrir des textes qui ont été très importants dans la culture religieuse occidentale. Voilà, pour vous donner juste un exemple pour terminer, un des 6 textes, donc une des prières, la prière de Manassé, est un texte que Luther chérissait particulièrement, et il avait traduit cette prière et elle était dans sa Bible allemande. Donc c'est aussi finalement un moyen d'avoir une vision diachronique de la Bible avec l'ajout de ces quelques textes.
Mais ces textes n'ont rien à voir à proprement parler avec ce qu'on appelle les textes apocryphes ?
Alors c'est là où les mots sont compliqués et un peu piégés, c'est que ces textes sont considérés par les protestants comme des textes apocryphes. Mais alors, on peut dire que, à part les 39 livres communs, ce deuxième canon est considéré par les protestants comme donc apocryphe. Pour un certain nombre de ces textes sont reçus par les catholiques comme canoniques et d'autres comme apocryphes. Il y a aussi une distinction dans la tradition orthodoxe entre les textes qui sont vraiment au cœur de la Bible, qui sont inspirés, et les textes qui sont appelés bons à lire. Et ces textes donc, de ce deuxième canon, ces textes qui sont présents ici, sont des textes bons à lire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui auront une place fondamentale, par exemple, dans un office. Ce sont plutôt des textes de formation, d'apprentissage de la sagesse, que des textes proprement de révélation.
Est-ce que ce n'est pas un coup de canif à la tradition qui existait jusqu'à présent? On avait les 39 textes canoniques. Et là, avec cette nouvelle version, hop, on revient en arrière et on rajoute des choses qui avaient été proscrites. C'est une révolution, en quelque sorte. C'est une ouverture vers on ne sait où, quoi, maintenant. Tout est possible, maintenant.
Alors,
dans les pages de
on vient bien d'entendre que ces 6 livres qui ont été ajoutés ne sont pas tombés du ciel. Hein. C'est un héritage qui s'est perpétué plus en Orient qu'en Occident. Mais on voit bien, enfin, à travers tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que la Bible a été un peu l'otage des confessions, des batailles entre catholiques et protestants. Et vous voyez cette variation, non pas sur l'essentiel, parce que l'essentiel, le Nouveau Testament, par exemple, c'est exactement le même texte pour tous les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Et le noyau du Premier Testament, la Torah hébraïque, enfin, je veux dire, la Bible hébraïque est l'essentiel, il nous est commun. Mais on voit bien que ces variations sur les textes montrent bien qu'il y a eu des... C'est plus élastique, c'est plus souple. Et surtout qu'au fond, par exemple, les Bibles protestantes qui contenaient ces livres deutérocanoniques communs aux catholiques déjà auparavant, à partir du 19e siècle, ces livres ont été enlevés. Donc il y a un peu une radicalisation, si vous voulez, en disant ça c'est la Bible des protestants, ça c'est la Bible des catholiques, on n'a pas la même Bible, alors que c'était plus flou, vous voyez la frontière, hein, puisque Luther, par exemple, intégrait dans sa Bible même un de ses nouveaux livres deutérocanoniques. Même dans les Bibles protestantes, les livres deutérocanoniques qui n'avaient pas le même statut étaient intégrés entre l'Ancien et le Nouveau, mais il y a eu une radicalisation, si vous voulez. Donc on voit que la Bible est un peu l'otage des confessions chrétiennes et comme une manière de se distinguer. On a la même Bible, mais on ne veut pas montrer qu'on... Voilà. Et il y a eu plusieurs tentatives, parce qu'on peut se dire, ça paraît évident aujourd'hui de traduire ensemble la Bible, parce que c'est quand même un patrimoine commun. Eh bien, la Tob, c'est la première fois que la Bible était traduite en 1975, quand paraît la première édition de la Tob. C'est la première fois au monde que paraissait une traduction commune entre chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes. Et il y avait eu d'autres tentatives auparavant, alors je parle pour le contexte français, au XVIIe siècle, tentative avortée, on était là au milieu des querelles confessionnelles, et puis au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, juifs, protestants, catholiques tentent de lancer un grand chantier de traduction commune avec une grande messe à la Sorbonne pour inaugurer ce projet, et quelques mois après, ça disparaît. Donc, vous voyez, toujours ces velléités de dire les chrétiens ont au moins un point commun, c'est le texte biblique, et la difficulté de réaliser concrètement une traduction commune. Et donc la Tob, elle a cela déjà de révolutionnaire, vous voyez. Donc ajouter ces livres, enfin ces livres qui honorent, si vous voulez, un des héritages chrétiens du christianisme orthodoxe, eh bien, c'est vrai que c'est un peu impertinent, hein. Et puis, on a quand même une petite fierté, nous les éditeurs, de, pour la première fois, d'intégrer ces livres dans un sommaire d'une Bible imprimée en français. Mais si vous voulez, la Tob en elle-même, ce projet, la première Tob qui paraît, eh bien, c'est déjà un événement incroyable. Et on oublie, ça remonte seulement à 35 ans, mais on oublie la petite révolution que ça a fait. Parce que les protestants, par exemple, qui se sont appropriés cette Tob très progressivement, avec souvent quelques résistances, disaient « mais c'est quoi ces livres qui apparaissent au milieu ?» qui étaient les livres deutérocanoniques catholiques, vous voyez le livre des Maccabées, par exemple, de Tobie. Alors, tous ces livres-là, les protestants, qui d'habitude connaissent bien les histoires de la Bible, découvraient ces histoires qu'ils ne connaissaient pas, puisque ce n'était pas dans leur Bible protestante. Donc, il y a une espèce d'apprivoisement, la Bible étant un lieu où on va se rencontrer, alors qu'avant, on avait chacun la sienne. Donc ça, c'est l'aventure de la Tob, c'est ça. Et même ceux qui ont travaillé au chantier de la Tob, au début, ces savants catholiques, protestants et orthodoxes qui se sont mis ensemble, ces biblistes, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc la première aventure, ce n'est pas celle des lecteurs, c'est celle des traducteurs, de se mettre ensemble. Et donc, si vous voulez, je réponds longuement à votre question, mais au fond, cet ensemble de livres qui se rajoutent, simplement, comment dire, révèle le caractère vraiment œcuménique de cette traduction. Et c'est encore une étape, je ne sais pas l'étape suivante, mais voyez la Bible comme un lieu de rencontre. Alors bien sûr, pour les croyants, la Bible, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, mais un lieu de rencontre entre les croyants, entre les chrétiens. Et je dirais que ça va même plus loin, parce qu'au fond, le fait que cette Bible échappe à la tutelle peut-être des églises, ou ne soit pas prise en otage ainsi, soit du côté catholique, soit du côté protestant, eh bien, peut-être ça donne confiance aux autres lecteurs, parce que la Bible n'a pas que des lecteurs croyants, aux professeurs, on lit la Bible pour ses qualités littéraires, de sagesse, elle est même parfois dans les manuels scolaires. Et alors, quelle Bible on va utiliser? Alors, souvent, les manuels scolaires, donc une lecture, j'allais dire, culturelle, utilise la Tob, cite la Tob, en se disant, c'est une Bible voilà, qui est pour tous, hein, qui est au-dessus de la mêlée, si vous voulez. Donc, vous voyez, cette traduction œcuménique, j'ai essayé un petit peu comme ça rapidement et peut-être un peu longuement d'expliquer son originalité et qui se poursuit simplement. Cette édition 2010, c'est vrai qu'elle marque un grand moment. Ce n'est pas non plus la révolution, parce que c'est quand même la même Bible, mais simplement, elle renforce cette vocation de la Tob à être un livre d'ouverture.
On a compris, donc, certains verrouillages ont été effectués au cours des siècles par les hommes d'Église, par les anges de foi, et cette nouvelle traduction de la Tob effectue une sorte de déverrouillage en rassemblant, justement, les textes et les hommes et les chercheurs. Et justement, toujours aux éditions du Cerf et Biblio, il y a la sortie de cet ouvrage sympathique qui accompagne justement cette nouvelle parution de la Tob. C'est un ouvrage utile, écrit tout à fait clairement pour nous aider à nous retrouver dans les dédales de complications qui ont entouré les différentes versions et traductions de la Bible dans sa version œcuménique. Ça s'appelle « L'aventure de la Tob » et c'est une véritable aventure. Alors, vous écrivez, page 9, « Il y a 50 ans, les éditeurs des sociétés bibliques françaises et suisses, les éditions du Cerf, engagés les premiers entretiens avec des biblistes audacieux en vue de donner une traduction œcuménique de la Bible. Ils n'imaginaient pas alors l'ampleur de la tâche à laquelle ils allaient associer pour deux générations plus de 150 universitaires, exégètes, prédicateurs, réviseurs, dont les noms sont inscrits avec gratitude au début des éditions de la Tobe et en fin de cet ouvrage. Alors vous dites, né des amitiés de la résistance spirituelle partagée dans les années 1940, ce sont des dates qui marquent et qui réunissent les hommes de bonne volonté, bénéficiant du renouveau ecclésial, biblique et œcuménique aux premières lueurs du Concile catholique Vatican II, une date importante là aussi, développant le travail commun entre exégètes et universitaires dans les années 50, ils ont réalisé l'une des plus belles œuvres de création intellectuelle, culturelle et religieuse du XXe siècle. Et vous leur rendez hommage avec de très belles images en noir et blanc qui montrent tous ces gens qui œuvrent pour nous tous, un travail d'utilité publique.
Tout simplement, on a voulu raconter l'histoire. Parce que, en fait, une traduction biblique, c'est un peu mystérieux. C'est-à-dire, on sait comment ça fonctionne. Il faut connaître l'hébreu, l'araméen, le grec, travailler beaucoup, être fidèle à la langue source, et puis rendre le texte dans une langue heureuse, agréable, dans le style, j'entends, la langue française, la langue cible. Bon, ça, c'est le travail des traducteurs. Mais après, que devient une traduction? Qu'est-ce qui fait qu'une traduction qui paraît, rencontre un public, s'enracine dans le temps, va durer pour des décennies, des générations, ou au contraire va s'éteindre. Vous savez, il y a eu des tas d'entreprises de traduction de la Bible ou d'autres ouvrages. Certaines ont connu un grand succès. En langue française, pas tellement, mais en anglais, par exemple, la King James Version, ça a structuré la langue anglaise ou la Bible de Luther pour la langue allemande. Bon, en France, c'est moins le cas, puisqu'on est un pays de tradition catholique, de culture catholique, où la lecture de la Bible n'était pas, disons, très, très, très courante. Il n'y a pas de grande Bible attachée à la langue française. Mais quand même, la Bible de Sacy, au XVIIe siècle, rend compte d'une très belle langue, de la langue classique, du français classique. Et cette Bible de Sacy aura une certaine pérennité sur 2-3 siècles. Et la Tobe, vous voyez, avec maintenant ces décennies qui se poursuivent, et voilà, la Tobe, maintenant, s'enracine dans le temps. Et donc, pour nous, éditeurs, traducteurs, on a voulu raconter cette aventure humaine qui fait qu'un texte, il y a d'abord deux personnes, l'intuition de deux personnes qui se rencontrent, ensuite qui partagent leur vision, est-ce qu'on pourrait traduire la Bible ensemble, etc. Ces 150 contributeurs qui sont mis progressivement au travail pour les révisions, etc. Toute cette aventure-là, cette épaisseur-là, à l'occasion de cette nouvelle édition, on a voulu la raconter. Et effectivement, c'est pas quelque chose de froid, c'est des gens, des hommes, des femmes aussi, parce qu'au fond, cette traduction, cette révision de 2010, elle a aussi pour caractéristique, jusqu'à présent, les contributeurs, les rédacteurs de la Tobe étaient des hommes essentiellement, et là dans ce chantier, ce comité scientifique avec Madame Stavrou et d'autres, c'est aussi la présence de biblistes femmes. Voilà, c'est assez passionnant de se pencher sur comment un texte, une traduction émerge et comment elle est reçue. La Tobe, vous savez, elle est aussi dans toute la francophonie. C'est pas seulement en France, c'est en Suisse, en Belgique, au Canada, mais aussi et beaucoup en Afrique. Finalement, on s'est rendu compte avec ce petit livre, en cherchant les statistiques, les témoignages, les anecdotes, on s'est rendu compte de l'impact de la Tobe. Et en Afrique, si vous voulez, pour un lecteur sur deux lit la Tobe en Afrique. Donc la Tobe, c'est pas seulement une affaire de la France ou de l'Europe, c'est aussi une affaire de la francophonie. Et au fond, on est un maillon de cette chaîne qui a commencé il y a 35 ans. On est à deuxième, voire troisième génération de rédacteurs et de lecteurs. Et ça continue, et on a, avec cette nouvelle édition, bien sûr, on ouvre encore un chemin, mais qui va continuer.
Alors, à l'image du travail sur la Tobe, ce livre, L'aventure de la Tobe, a été écrit aussi par un collectif autour de vous, Gérard Billon, Sophie Schlumberger, André Thomas, pour cette belle aventure de la Tobe.
Alors, j'aurais juste voulu ajouter quelque chose à propos justement de la traduction. Je pense que ce qui est très important, c'est que la traduction, c'est toujours une entreprise vivante. La langue change et la traduction se fait aussi dans la langue d'arrivée. Et elle doit essayer d'être au plus juste avec la langue telle qu'elle est parlée maintenant, d'une manière tout à fait contemporaine. Et cette nouvelle traduction de la Tobe en donne quelques exemples. Donc, je voudrais juste vous citer un ou deux exemples. Le mot, par exemple, prophétiser, qui est employé donc plusieurs fois dans l'Ancien Testament, petit à petit tend à signifier la même chose que prédire l'avenir. Or, dans la Bible, il a un sens beaucoup plus fort. Et c'est pour cela que, cette fois-ci, à la place de prophétiser, on a traduit se conduire ou agir en prophète. Parce que prophétiser, ça peut être aussi bien parler, mais aussi agir. Voilà un exemple. Un autre exemple, dans les nouveaux textes qui sont sortis, à un moment, on s'est posé la question de savoir si on pouvait employer un mot qui nous semblait très moderne, qui est le mot « rafle ». Parce que le roi d'Égypte décide de faire arrêter tous les Juifs et de les rassembler tous dans l'amphithéâtre, dans l'hippodrome d'Alexandrie. Et donc, à la fois ça nous semblait anachronique, mais en même temps on a été regarder dans les dictionnaires et on a vu que c'était un mot qui, au fond, a ce sens d'arrestation en masse depuis au moins le 19e siècle, voire plus longtemps, et qu'on était donc tout à fait en droit de pouvoir l'utiliser. Il n'était pas aussi franchement anachronique que ce qu'on pouvait penser, et ça nous permettait aussi de créer des échos avec une histoire plus récente, sans trahir le texte d'origine. Et je voudrais donc terminer en citant un dernier exemple, c'est le travail qui a été fait dans l'Évangile de Jean sur la traduction du mot « juif » qui est employé de nombreuses fois, plus de 60 fois, en particulier dans le récit de la Passion, et souvent de manière très polémique avec d'un côté les juifs et de l'autre côté nous, les chrétiens, le Christ. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait pour essayer d'avoir une traduction plus juste du terme grec « judaioi » qui ne signifie pas systématiquement « les juifs », mais qui peut signifier les habitants de Judée, qui peut signifier aussi les hommes de religion juive, et enfin les autorités juives, les chefs religieux des juifs. Et donc, il y a eu un travail systématique pour essayer d'enlever ce mot qui généralise, qui crée comme ça cette espèce d'affrontement entre deux groupes, en modifiant la traduction de « les juifs » par « souvent les autorités juives, ou simplement en modifiant l'article « ces juifs »,« des juifs », de manière à arriver à un résultat plus nuancé et beaucoup plus juste.
Alors Bernard Coyot, justement, l'un des chapitres de l'aventure de la Taube s'intitule « La Bible, chemin de l'unité », mais avec un point d'interrogation. Et puis alors vous complétez en disant « c'était leur espoir » en parlant des grands pionniers de cette aventure de la Taube. « Cela reste notre désir ». Donc on voit le désir, donc tout est en marche, mais rien n'est abouti. Justement, qui participe à cette aventure œcuménique? Quelles sont les grandes religions qui s'asseyent et qui ont accepté de s'asseoir autour de la table?
Alors c'est vrai que l'exemple qu'on vient de prendre sur la traduction du mot « juif » renvoie à la façon dont parfois les textes bibliques ont été utilisés pour polémiquer, avec un petit relent d'antisémitisme, accusant les juifs de déicide, c'est sur la base de ces versets, l'évangile de Jean. Et donc ça pose la question, effectivement, la Bible n'appartient pas aux chrétiens. La Bible, les chrétiens la reçoivent, la Bible hébraïque la reçoivent du peuple juif. Et on pourrait se dire, dans notre ère du 21e siècle, il est temps non seulement de traduire la Bible entre chrétiens, mais de s'asseoir à la même table avec les érudits et les savants juifs avec lesquels on pourrait traduire la Bible ensemble. Or, il s'avère que la Taube n'a pas été jusque-là. Et donc, peut-être, c'est effectivement, on pourrait se dire, mais puisque cette Bible hébraïque, ce premier testament, l'Ancien Testament, comme l'appellent les chrétiens, en référence au Nouveau, eh bien, ils pourraient s'asseoir ensemble et le traduire ensemble. Et vous voyez, on n'y est pas encore. La Taube a été une étape quand même, puisque au fond, alors c'est une affaire un peu compliquée, mais le sommaire de l'Ancien Testament dans la Taube reprend l'ordre des livres, si vous voulez, des groupes de livres propres au judaïsme. Alors qu'auparavant, les autres traductions de la Bible, protestantes ou catholiques, ont l'ordre hérité de la Septante, justement, la traduction grecque. Dans la Taube, il y avait déjà dans le choix de l'ordre des livres, le sommaire, si vous voulez, de l'Ancien Testament, une reconnaissance, disons, de la tradition juive dans l'ordre des livres qui ont été retenus. Et certainement, c'est peut-être la nouvelle étape à venir, mais alors qui sera peut-être des successeurs, qui sait, dans une révision à venir, de faire en sorte que ceux qui contribuent à la traduction des livres prophétiques, de la Torah, du Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, etc., les équipes là qui travaillent sur les révisions, vous voyez, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une traduction, elle est toujours à réviser en fonction de l'évolution de la langue française et aussi en fonction des connaissances bibliques. Eh bien, ces connaissances bibliques sont portées aussi par les savants juifs, par les rabbins, et on devrait pouvoir ensemble, dans l'avenir peut-être, espérons en tout cas, voilà l'espérance, s'asseoir ensemble à la table pour ce chantier de révision et d'autres projets ainsi autour de la Bible, qui est notre patrimoine commun.
Sophie Stavrou, vous nous avez parlé de 4 livres et de 2 prières. Y aurait-il d'autres livres à faire entrer dans une prochaine version de la Taube ?
Écoutez, peut-être, parce qu'il y a aussi dans d'autres églises orientales, le canon par exemple des églises syriaques, coptes ou arméniennes, d'autres textes qui ont été gardés. Donc c'est encore tout un débat. Alors là, peut-être que ça nous amènerait très loin, je ne sais pas.
On est en route maintenant.
On est en route.
Mais pour l'instant, pour ces 4 textes et ces 2 prières, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce qu'ils contiennent et de ce que les auditeurs et lecteurs de Canal Académie pourront lire prochainement?
Mais écoutez, volontiers. Tout d'abord, je pense que ce qui est important dans ces textes, c'est qu'ils ont tous été écrits entre les derniers siècles avant Jésus-Christ et les premiers siècles de notre ère. Donc ce sont vraiment des textes contemporains de l'essor du christianisme. Ils permettent vraiment de sentir quelle était l'atmosphère religieuse ou culturelle en Palestine ou à Alexandrie, dans cette communauté juive, au moment de la naissance du christianisme. L'intérêt aussi, c'est que ce sont des textes extrêmement divers. Donc, pour vous les présenter rapidement, il y a d'abord donc deux livres d'Esdras, le troisième et le quatrième livre d'Esdras. Le troisième livre d'Esdras, il est un peu en double emploi avec des livres qui sont dans les 39 livres canoniques, ce qui peut expliquer aussi pourquoi peut-être il a été abandonné. Il raconte le retour à Jérusalem après la déportation. Mais ce qui est très original, c'est une sorte de morceau de bravoure qui est une joute oratoire entre trois pages à la cour du roi de Perse qui vont essayer de savoir qui est le plus fort, qui va l'emporter entre le vin, les femmes ou la vérité. Donc un morceau plein d'humour aussi et tout à fait unique. Le quatrième livre d'Esdras, alors c'est complètement différent. C'est pour ça que je vous parle d'une grande variété. Il a été écrit, lui, après Jésus-Christ, et en particulier après la destruction du temple de Jérusalem en 70. C'est un texte très étrange parce qu'il est composite. Le début et la fin sont des chapitres qui ont été écrits par des chrétiens, et le centre est une apocalypse juive qui est enchâssée entre ces chapitres rédigés par des chrétiens. Et donc, c'est un texte apocalyptique donc qui reprend les thèmes à la fois de la mort, de la vie après la mort, du destin du peuple élu au moment où le temple a été rasé, donc à un moment d'un très grand traumatisme, et où Esdras apparaît comme une sorte de nouveau Moïse qui va réécrire les livres. C'est un texte qui est extrêmement mystérieux, mais par exemple, dont certains extraits sont employés dans la messe de Requiem en Occident. Alors, autre univers, on passe maintenant dans le troisième et le quatrième livre des Maccabées. Ces deux livres ont pour point commun l'importance du martyr, du thème du martyr, un peu comme dans l'histoire d'Esther, et aussi la difficulté du peuple juif à vivre en diaspora, dans un univers entouré de peuples qui sont différents, avec un pouvoir politique qui peut lui être hostile. Le livre 3 des Maccabées, c'est un véritable roman historique, puisqu'il raconte comment le roi de l'époque, à Alexandrie, au 3e siècle avant Jésus-Christ, décide donc d'organiser l'arrestation de tous les Juifs qui ont refusé de sacrifier à Apollon, de les parquer tous dans l'hippodrome d'Alexandrie avant de les faire massacrer par ses éléphants qu'il a enivrés en leur faisant boire de l'alcool et respirer de l'encens. Donc on a un grand suspense, il y a plusieurs tentatives pour faire massacrer ces Juifs qui sont finalement arrêtés in extremis, et bien sûr, la fin, vous pouvez la deviner, ils seront sauvés. Le quatrième livre des Maccabées, lui, à nouveau un texte très original parce que c'est une manière d'essayer de penser en termes philosophiques sa foi. Donc au fond, c'est aussi très contemporain. On commence par une sorte de traité qui pourrait être un traité stoïcien sur l'importance de maîtriser les passions. Et au fond, il y a une sorte de convergence entre la sagesse, qui est la maîtrise des passions, et le respect de la loi, le respect de sa foi. Et comme exemple donné de cette ataraxie, de cette façon de maîtriser les passions, la souffrance, va nous être raconté le martyr des sept frères Maccabées, ainsi que du prêtre de Jérusalem et de la mère de ces sept frères, avec un luxe de détails à faire dresser les cheveux sur la tête. Et c'est un texte qui est important, par exemple, dans l'Église orthodoxe, parce que les frères Maccabées sont fêtés au calendrier le 1er août. Et donc, à cette occasion, on peut lire le récit de la vie de ces personnages. Pour terminer, donc deux courtes prières. Je dirais qu'elles sont courtes en taille, mais qu'elles ont une grande importance. La prière de Manassé, que nous avons déjà évoquée, parce qu'elle était chère à Luther, qui vient, au fond, meubler un blanc dans un autre livre biblique. Et ça, c'est quelque chose de très courant. On a horreur des blancs. Dans le deuxième livre des Chroniques, on nous dit que le roi Manassé, qui est un roi impie, criminel, qui a absolument mené une entreprise systématique de destruction du culte du Dieu d'Israël pour introduire le culte des idoles, au point de sacrifier même aux idoles ses propres enfants, finalement est battu à la guerre, il se retrouve prisonnier, enchaîné à Babylone, et là, au fond de son cachot, il y a un retournement intérieur. Mais dans le livre des Chroniques, on ne nous dit pas la prière, nous n'avons pas les mots de la prière que Manassé a adressée à Dieu dans sa prison. Et ici, voilà ce texte qui est une sorte de poème qui est un texte très lyrique dans lequel on a un véritable acte de reconnaissance de Dieu par Manassé et une demande à Manassé auprès de Dieu de changer vis-à-vis de lui. Donc il y a une espèce de rencontre personnelle entre Manassé et Dieu dans une espèce de changement réciproque. Voilà, un très beau texte. Et enfin, un court psaume, un psaume supplémentaire qui est un psaume qui retrace la vie de David et qui souvent, dans les manuscrits du Moyen-Âge, était considéré un peu comme une sorte de signature du roi David à la fin des psaumes et qui, dans notre édition de la Tobe, vient clore l'ensemble de l'Ancien Testament comme une sorte d'action de grâce de David.
Sophie Stavrou, Bernard Coyot, merci d'avoir participé à cet échange autour des micros de Canal Academy où nous ne nous quittons pas tout de suite. Nous écoutons maintenant la prière et le psaume. Seigneur souverain, Père de nos pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de leur juste descendance, toi qui as fait le ciel et la terre avec toute leur beauté, toi qui as entravé la mer par la parole de ton commandement, toi qui as fermé l'abîme et l'as scellé par ton nom redoutable et glorieux, et devant qui tout frémit et tremble face à ta puissance, en effet, la magnificence de ta gloire est insoutenable et irrésistible est ta colère qui menace les pécheurs, mais incommensurable et insondable est la miséricorde de ta promesse, car c'est toi le Seigneur Très-Haut, compatissant, lent à la colère et plein de miséricorde, qui se repent des maux qui frappent les hommes. Toi donc, Seigneur, Dieu des justes, tu n'as pas établi le repentir pour les justes, pour Abraham et Isaac et Jacob, qui n'ont pas péché contre toi. Mais tu as établi le repentir pour moi, pécheur, parce que j'ai commis des péchés plus nombreux que le sable de la mer. Mes transgressions se sont multipliées, Seigneur. Elles se sont multipliées. Je ne suis pas digne de lever les yeux pour voir la hauteur du ciel à cause de la foule de mes péchés. Je suis trop accablé sous le grand poids de mes chaînes pour relever la tête à cause de mes péchés. Il n'est pas pour moi de pardon, car j'ai provoqué ta colère. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en commettant des abominations et en multipliant des objets d'horreur. Mais maintenant, je plie le genou de mon cœur en implorant ta bonté. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché, et mes transgressions, moi, je les connais. Je te supplie. Je t'implore, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ne m'anéantis pas à cause de mes transgressions. Ne garde pas de ressentiment pour l'éternité face au mal que j'ai fait. Ne me condamne pas jusque dans les profondeurs de la terre, car tu es, Seigneur, le Dieu de ceux qui se repentent, et en moi, tu montreras ta bonté. Car tout indigne que je sois, tu me sauveras dans ta grande miséricorde et je te louerai sans cesse tous les jours de ma vie. Car toute la puissance des cieux te loue et la gloire t'appartient pour l'éternité. Amen. Voici le psaume autographe sur David et hors numérotation lorsqu'il lutta en combat singulier avec Goliath. J'étais le petit parmi mes frères et le plus jeune dans la maison de mon père. Je faisais paître les moutons de mon père. Mes mains ont fabriqué un instrument. Mes doigts ont ajusté une harpe. Et qui fera l'annonce à mon Seigneur ? Lui, le Seigneur, lui, il écoute. Lui, il a envoyé son messager. Et il m'a enlevé aux moutons de mon père. Et il m'a oint de l'huile de son onction. Mes frères étaient beaux et grands, mais le Seigneur ne s'est pas complu en eux. Je suis sorti à la rencontre vers l'étranger, et contre moi il a lancé des malédictions par ses idoles. Mais moi, j'ai tiré l'épée à son côté, je l'ai décapité, et j'ai enlevé l'opprobre loin des fils d'Israël.